Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à l'entreprise. L'entreprise comme acteur géopolitique, une idée qui ne tombe pas de soi mais qui trouve tout son sens si l'on prend en considération la taille des multinationales, leur chiffre d'affaires, leur place dans l'économie mondiale, leur toute-puissance. La crise de 2007, l'accroissement des inégalités, le doute ne cesse de grandir quant aux vertus de l'internationalisation. Même les économistes ne croient plus à la mondialisation heureuse et sont désormais plutôt enclins à souligner son rôle dans la multiplication des désordres. La mondialisation est-elle menacée? En plein débat sur les gagnants et les perdants de cette mondialisation, on assiste au ralentissement, si ce n'est au recul de l'extension que l'on croyait sans fin de la globalisation des entreprises et de la finance. Est-ce un début de régulation des échanges commerciaux plus en phase avec ce qu'on appelle le bien commun? Regard sur cette question avec nos invités. Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, économiste spécialisée en économie internationale et de la défense. Bonjour.
Bonjour.
Patrick Dumière, animateur de l'Académie durable internationale, enseignant à Centrale Supélec, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, La nature politique de l'entrepreneur, paru aux éditions Michel de Maulle. Bonjour.
Bonjour.
Ces dernières années ont été marquées par un phénomène de rejet de la mondialisation. Des voix se sont fait entendre pour réclamer une pause, voire une inversion. Ce rejet s'explique par de multiples raisons économiques, sociales et politiques. Les oubliés de la mondialisation sont nombreux, en particulier dans la moitié inférieure de l'échelle de distribution des revenus, notamment dans les pays avancés. Est-ce qu'on peut parler d'échec du processus de la mondialisation tel qu'il a été mené, avec en particulier les critiques portant sur la domination exercée par les entreprises et les institutions financières puissantes? Sylvie Matelli.
Alors, échec, oui et non. Échec, en effet, parce que naïvement, on a cru que les marchés s'autorégulant, tous les problèmes allaient se résorber les uns à la suite des autres grâce à cette libéralisation, parce que la mondialisation n'est jamais qu'une conséquence d'une liberté accrue dans le domaine économique. Mais échec, non, parce que fondamentalement, je pense qu'on a été peut-être trop naïf, et puis que les entreprises, comme les États, peut-être comme les opinions publiques également, n'ont pas compris que dans la mondialisation, les entreprises ne pouvaient pas se contenter de faire que du business. Mais vous savez, on redécouvre toujours les mêmes choses au fil de l'histoire parce qu'on oublie systématiquement les leçons de l'histoire. Moi, je me souviens de la lecture de l'introduction de la théorie générale de Keynes où il explique très clairement que l'intérêt microéconomique d'une entreprise, donc l'intérêt de l'entreprise à faire du business, n'est pas forcément l'intérêt de la collectivité et qu'à un moment donné, il faut adapter les règles en fonction. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les entreprises sont au pied du mur, c'est que d'un côté elles doivent faire du business et du business toujours mieux parce qu'elles sont en compétition les unes avec les autres parce que la mondialisation est là et qu'une entreprise française est en concurrence directe avec une entreprise indienne, chinoise ou autre, mais dans le même temps parce que les États n'ont pas pris la mesure de cette mondialisation et des limites de cette mondialisation, elles sont aussi obligées, et ça monsieur en parlera beaucoup mieux que moi, de faire de la RSE, de se responsabiliser. La vraie question, c'est sont-elles en mesure, totalement en mesure de le faire.
Alors la RSE, comme je le disais en introduction, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Patrick Dumière.
Oui, c'est un concept effectivement qui émerge dans la critique qui peut être faite de l'action, on vient de parler Sylvie, de l'action insuffisante de prise en charge des enjeux de cette mondialisation. Pour répondre à votre question, je dirais que le phénomène un peu nouveau qui vient télescoper aujourd'hui les stratégies des entreprises et puis celles des États et les attentes de la société, c'est le fait qu'on est quand même depuis 20 ans dans une économie de marché triomphante, que c'est le seul modèle et que les gouvernements appellent cette progression de l'économie de marché, donc dresse des tapis rouges aux entreprises et à l'investissement. C'est même le sens donné aux organisations internationales. Et quand le secrétaire général de l'OCDE, en juin dernier, publie son rapport intitulé « Réparer la mondialisation », on ne remet rien en cause, si ce n'est qu'on essaie d'appeler les entreprises à rentrer dans un jeu collaboratif avec les acteurs. Et c'est ça qui est nouveau, c'est que on dit aux entreprises « Allez-y, développez ». Développez-vous. On espère bien qu'au travers de cela, la société va se développer également. Et surtout, on leur demande de converger. Et ça, c'est complètement nouveau dans la conception même de la gestion des marchés, puisque jusqu'à maintenant, on avait l'État régulé et l'entreprise produisait.
Alors, on reparlera bien évidemment, vous évoquiez l'unique modèle qui a été mis en place, effectivement, et probablement qu'il y en a d'autres, même sûrement non explorés, parce que voilà, on est toujours dans le connu. Je voudrais qu'on reste un certain temps sur la question des critiques de la mondialisation. Parmi les critiques, il y a celles concernant les processus qui ont sous-tendu la mondialisation, l'opacité entretenue par des élites dans le monde, l'absence de surveillance du public et de la validation démocratique. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas très saines, l'interconnexion entre les institutions financières et l'activité financière, et puis la place déterminante des grandes entreprises qui décident de tout. Elles décident même de ce que nous allons manger, consommer. Sylvie Matelli, c'est allé trop loin.
Alors, je crois que c'est intéressant de faire le distinguo entre les grandes entreprises et puis d'autres entreprises. La question de l'entreprise est une question de la diversité en réalité. Et on met dans le même panier des entreprises petites et moyennes qui embauchent sur leur territoire, qui se battent face à une concurrence internationale, et puis de grandes boîtes, très grandes boîtes, qui parce qu'elles disposent d'une technologie assez unique, vous vendent leurs produits hors de prix, placent tous leurs bénéfices dans des paradis fiscaux, et puis sont obligées de s'endetter parce qu'elles n'ont plus de trésorerie. Donc je crois qu'on est face à des pratiques qui sont très différentes suivant les entreprises, mais effectivement il y a un certain nombre de choses qui choquent de plus en plus les opinions publiques, sur lesquelles il faut effectivement revenir. Je crois que c'est important aujourd'hui et je crois qu'il faut bien réfléchir sur c'est quoi l'activité d'une entreprise aujourd'hui. Et encore une fois, je voudrais pas être injuste avec les entreprises. On peut pas mettre toutes les entreprises dans le même panier. Et de la même manière, vous avez des entreprises qui, sur certains dossiers, avancent très rapidement, sont très en pointe et ont un véritable engagement. Et puis, elles se font attraper sur d'autres dossiers par des scandales divers et variés. Donc, je crois que la question de l'activité internationale de l'entreprise ou de l'activité de l'entreprise dans la mondialisation est quelque chose qui doit être questionné aujourd'hui et qui est assez mal compris et par les entreprises elles-mêmes, mais également par les pouvoirs publics dans les politiques qu'ils peuvent mener à ce niveau.
Patrick Dumière.
Oui, c'est important de faire la part des choses, effectivement, et d'exercer un petit peu un diagnostic un peu plus, je dirais, fin sur ces réalités au regard de ce qu'apportent les entreprises et de leurs pratiques insuffisantes, voire dans certains cas plus que critiquables. Mais avant tout, les 30 dernières années, un peu plus, se caractérisent par une diffusion croissante de biens et de services dans le monde, profit d'une classe moyenne qui est, certes dans les émergents et dans les pays développés, de plus en plus capable d'accéder à ces biens et ces services grâce à cette activité économique, à cet investissement. Donc le phénomène, la tendance, et celle-là elle n'est pas contestable à travers toutes les observations depuis plusieurs décennies, c'est quand même une élévation du niveau de richesse et du niveau de prospérité matérielle d'une partie centrale de la population mondiale en période de croissance. Je rappelle qu'on est quand même sur des taux de croissance 3-4% qui devraient se continuer dans les quelques années qui viennent et qui bénéficient de manière extrêmement inégale, on connaît le sujet, mais ça c'est quand même l'apport des entreprises. S'il n'y avait pas ça, vous auriez une illégitimité des entreprises et vous auriez une situation qui serait pas tenable en réalité politiquement et socialement. Si on est dans un contexte où on peut aujourd'hui à la fois critiquer et tirer les entreprises vers plus de responsabilités, et Dieu sait s'il y a des sujets graves et d'autres qui sont, moins substantiels sur la marge de la société. Mais enfin, c'est parce qu'il y a d'abord, avant tout, alors il faudrait distinguer, le secteur extractif qui a peut-être un impact plus critiquable aujourd'hui dans sa manière de faire que d'autres. Mais c'est très varié et c'est très important. Et dans cette part des choses entre une contribution au progrès matériel et d'autre part des pratiques qui sont, comme vous le disiez, problématique du point de vue de la puissance que les entreprises ont acquise, de leur rôle sur les États, de leur capacité d'influence sur la vie quotidienne, et c'est là où est-ce qu'elles, par elles-mêmes, en dehors de ce que la loi et la règle et la norme doivent faire, est-ce que les entreprises peuvent par elles-mêmes corriger un peu un certain nombre de phénomènes qui posent problème. Voilà, c'est ça la question que je pose. Et jusqu'à maintenant, les entreprises ne se posaient pas cette question en ces termes, c'est-à-dire qu'encore une fois, elles n'estimaient pas qu'il était de leur rôle d'intervenir directement, soit parce que c'était la doxa classique, friedmanienne, je satisfais l'actionnaire et tout rentrera dans l'ordre, ou au contraire parce que c'était trop compliqué et qu'elles n'avaient pas empiété sur la chose publique. Donc on a un phénomène nouveau, là, une interpellation qui n'est pas du tout réglée, elle n'est pas réglée intellectuellement, on est encore dans des concepts un peu mous, elle n'est pas réglée politiquement, incitation, réalité du phénomène, et puis alors dans la pratique, même si on assiste à des exemples intéressants, on est quand même au tout début de cette prise de conscience du rôle politique, du rôle géopolitique des grandes firmes.
Et l'évolution va prendre du temps. Je vous passe la parole tout de suite, Sylvie Matelli. La question qui se pose à travers ce que vient de dire Patrick Dumière, c'est les entreprises sont-elles capables de s'autoréguler ?
Oui, et vous posiez la question de l'entreprise qui nous impose ses choix aujourd'hui. Mmh. Alors je crois qu'on est dans une période où effectivement on est en train de diaboliser l'entreprise, probablement à juste titre. On est allé trop loin, on a laissé les entreprises aller trop loin dans leur pratique des affaires, et il y a un certain nombre de choses qui ne sont plus acceptées, plus acceptables. Simplement, elles ne sont pas seules dans cette mondialisation. Vous avez d'un côté les États qui leur imposent un certain nombre de règles ou qui imposent des pratiques qu'elles pourraient ne plus accepter, mais elles n'ont pas le choix. Et puis de l'autre côté, n'oublions pas, vous avez le consommateur. Quand vous êtes au supermarché, vous n'avez pas un couteau sous la gorge pour décider ce que vous allez consommer ou ne pas consommer. Donc vous êtes aussi en responsabilité par rapport à ça. Je prendrai un seul exemple, l'exemple de la lutte contre la corruption qui, via l'ONU et les textes de l'ONU, via l'OCDE, a énormément avancé. Les entreprises sont extrêmement impliquées. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas réglé. Mais très clairement, aujourd'hui, on se retrouve un petit peu au pied du mur. Pas seulement les entreprises, d'ailleurs, dans cette lutte contre la corruption, parce que les entreprises peuvent tout faire pour contrôler en interne ce qui se passe et éviter qu'un certain nombre de pratiques ou éradiquer un certain nombre de pratiques, elles se retrouvent malgré tout confrontées à un choix cornélien, le choix du marché. C'est il y a des marchés sur lesquels, si vous voulez y aller, vous savez que vous devrez verser des pots de vin. Donc soit vous renoncez au marché, ce qui veut dire que vous renoncez aux emplois, etc. Soit vous acceptez un certain nombre de pratiques avec le risque de vous faire prendre à un moment donné. Donc je crois qu'encore une fois, sans vouloir dédouaner les entreprises de leurs responsabilités, c'était quelque chose de nécessaire que de les mettre face à leurs responsabilités, il faut bien prendre conscience qu'elles n'ont pas toutes les clés et tous les instruments en main pour résoudre tous les problèmes de la mondialisation.
Alors, on a bien compris ce triangle que vous évoquiez entre, d'une part, l'entreprise, les États, le consommateur. Ce qu'on sent tout de même, c'est une sorte de, dans certains dossiers, de collusion entre les États et puis les grandes entreprises. Finalement, c'est tout se passe entre élites à tous les niveaux, que ce soit élite politique ou élite économique. Quelques mots sur la corruption, je rebondis sur ce que vient de dire Sylvie Matelli. Patrick Dumière, ça n'est pas seulement l'affaire des pays dits du Nord. On voit les groupes puissants des émergents ne pas agir différemment de ceux des puissances du Nord. Je pense évidemment à ce à quoi vous pensez tous, c'est l'affaire Odebrecht, l'entreprise de BTP brésilienne qui aurait acheté une grande partie de la classe politique sud-américaine pour un montant de près de 1 milliard d'euros. 11 pays concernés, de Cuba à la Colombie, de l'Argentine au Mexique, c'est impressionnant. Patrick Dumière.
J'irai encore, si vous voulez, un petit peu plus loin, justement, dans la recherche d'une mise en perspective historique de ces questions-là, si on veut essayer de sentir les tendances, où va-t-on, que se passe-t-il ? Il y a 20 ans, la réponse classique à ces questions sur la corruption, c'était on peut pas faire autrement, on avance, et puis on mettait ça sous le tapis, et les pratiques galopaient. C'est pas le contexte actuel. Un grand groupe français vient d'être racheté parce que il avait été incapable d'affronter sa problématique de corruption. On vient de faire passer une loi en France qui est quand même un degré dans le contrôle des entreprises dans ce domaine, dans l'exigence qu'il aurait demandé. Les accords BEPS de l'OCDE aujourd'hui réduisent très significativement les possibilités de refuge dans les paradis fiscaux. On a quand même un mouvement, même si ce qu'ont fait les études de Transparency et d'autres, même si la situation est quand même extrêmement préoccupante sur ce terrain-là. Mais on n'est pas en terrain aussi simple qu'il y a 20 ans où on baissait les bras devant cette question et on allait allègrement dans un discours de fatalisme. Aujourd'hui, le CDE, d'autres organisations, des États et la justice. Dans cette affaire, il y a des arrêts très célèbres qui ont été rendus récemment où les entreprises sont pas simplement condamnées sur des fautes qu'elles ont commises, mais sur l'absence de procédure et l'absence, il y a un arrêt du tribunal de Berne qui est très célèbre là-dessus et qui dit cette entreprise ne fait pas ce qu'elle doit, donc je la condamne. Donc on voit que là, on a un changement un petit peu de paradigme qui est celui de la non-acceptation du phénomène en tant que tel comme règle de marché. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a réglé le problème du tout. Mais on a quand même posé le fait que à travers les engagements type Global Compact, c'est dedans pleinement. À travers les principes directeurs de l'OCDE, c'est pleinement. dedans. Et donc les entreprises aujourd'hui, dans les reporting qu'on leur demande de faire sur ces questions sociétales, elles doivent rendre compte de la réalité de leurs engagements contre la corruption. Et je peux vous dire que ça introduit à l'intérieur de l'entreprise une culture différente. Elle n'est pas acceptée telle qu'elle. Ça, pour moi, c'est le grand changement. Alors, on est quand même là dans une situation où on estime qu'il faut s'y attaquer. Alors, les États-Unis et l'Europe sont dedans, mais c'est vrai qu'on a beaucoup à faire sur ce terrain-là. Mais il exprime bien cette réflexion que vous posez sur, on demande aux entreprises de prendre des responsabilités, c'est pas l'autorégulation qui réglera les choses. Faut pas dire ça, mais elles ne sont pas inertes aujourd'hui sur ce terrain-là. Et moi, j'en connais très précisément, sans citer de nom, qui aujourd'hui disent je peux pas m'en occuper, mais je vais participer à des systèmes avec les États qui vont faire que je ne veux pas tomber en permanence dans la surenchère de la corruption.
Alors, on reviendra peut-être dans la deuxième partie de l'émission pour approfondir un petit peu cette question sur les entreprises prennent-elles ou non la mesure de leurs obligations, comment les contraindre. Quelques mots peut-être sur la loi que Patrick Dumière évoquait à l'instant. C'est bien celle qui a été adoptée en février 2017, qui instaure pour les quelques 150 entreprises françaises qui emploient plus de 5000 salariés en France ou 10 000 personnes dans le monde, l'obligation d'élaborer, de publier, de mettre en œuvre ce qu'on appelle un plan de vigilance, c'est-à-dire que les entreprises devront donner des informations sur les filiales, les sous-traitants et les fournisseurs de ces multinationales dans le but d'identifier les risques que leurs activités peuvent faire courir aux populations. C'est une loi importante, Sylvie Matelli ?
Ah, c'est une loi fondamentale. C'est une loi fondamentale parce qu'on change vraiment, on parlait de culture tout à l'heure, on change vraiment de culture et on demande à l'entreprise une totale transparence sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, y compris jusqu'aux sous-traitants de rang avancé. On est très clairement sur quelque chose de nouveau et c'est fondamental. Je voudrais revenir peut-être sur l'exemple que vous citiez de cette entreprise brésilienne qui a été, dont on a mis en évidence le fait qu'elle avait financé des partis partout en Amérique latine. Ça rappelle étrangement l'affaire Lockheed Martin, entreprise américaine au début des années 70, dont il avait été mis en évidence au début des années 70, qu'elle finançait un certain nombre de partis politiques partout dans le monde. Il y avait plus d'une centaine de pays qui étaient concernés. Le résultat en a été le FCPA, la loi de lutte contre la corruption aux États-Unis. Sauf que toute puissante que soit l'économie américaine ou les États-Unis dans son ensemble, ils ont été incapables pendant presque 20 ans de véritablement lutter contre la corruption. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y avait aucun relais, parce qu'ils étaient les seuls à avoir fait cette législation. Et quelque part, ce qui a peut-être fait bouger les choses, c'est le rôle des médias, le rôle des ONG dans ces questions. Sur la loi de vigilance, je crois qu'on a mis quelque chose aujourd'hui en place qui est fondamental. C'est bien que ce soit la France qui était l'un des premiers pays à faire ce type d'approche. Simplement, il faut bien réaliser que la France est bien seule en la matière et que les entreprises seront bien démunies et en tout cas en distorsion certaine de concurrence si elles cherchent véritablement à aller jusqu'au bout.
Patrick Dumière, vous souhaitez rebondir ?
Oui, parce que cette loi, c'est une avancée dans son principe politique. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir son applicabilité ou son application. Et le principe est une chose, et l'application détermine quand même l'intérêt des réglementations de ce type. Donc, il faut aller une étape plus loin. Du reste, si les entreprises françaises ont été opposées très largement à la publication de ce texte, c'est pas parce que elles se refusent à prendre en compte l'analyse de leurs fournisseurs au bout du monde, puisqu'il s'agit de ça, il s'agit de rendre compte du suivi dans sa chaîne de valeur par les fournisseurs du respect de la non-discrimination, des droits humains, des droits sociaux et de la lutte contre la corruption. Pourquoi il y avait ceci alors que, en fait, la France a monté à travers notamment des systèmes comme EcoVadis ou autres, des systèmes de notation et de suivi des fournisseurs qui est très élaboré. Si on l'a fait, c'est parce qu'on ne peut pas créer, et madame vient de le dire très justement à ce stade, des distorsions de concurrence. Et l'intérêt de ces questions de responsabilité, c'est qu'il faut les marier, il ne faut pas les limiter les combats idéologiques, il faut les marier avec les principes de la concurrence et les principes de l'économie de marché aujourd'hui. Comment faire en sorte que ça ne soit pas une distorsion de concurrence ? Comment faire en sorte que les autres pays le pratiquent et l'appliquent ? Et là, on voit bien que c'est, on met le doigt sur la déficience des actions au travers de l'OMC et des règles de l'échange commercial, et que c'est là que la régulation se pose. Est-il normal que on traite de la même manière une entreprise qui fait des efforts locaux de paiement de tout son impact local et autres, et une autre qui ne le fait pas?
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Patrick Dumière et Sylvie Matelli dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, l'entreprise comme acteur géopolitique, nous retrouvons nos invités, Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, économiste spécialisée en économie internationale et de la défense, Patrick Dumière, animateur de l'Académie durable internationale, enseignant à Centrale Supélec et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, La nature politique de l'entrepreneur, paru aux éditions Michel de Maulle. Nous avons parlé d'un certain nombre d'entreprises, de Brecht, l'entreprise brésilienne, les entreprises américaines. On évoquait la France. La France n'est tout de même pas à l'abri de scandales à travers certaines de ses entreprises. J'ai en mémoire ce qui fait débat, notamment dans la presse actuellement. C'est la société Lafarge, pour ne pas la nommer, qui a continué de faire du business en Syrie et plus que ça, qui a maintenu l'état de sa cimenterie sur place en payant ce qu'on peut appeler un impôt révolutionnaire, hein, finalement, à l'État islamique. Donc la France, voilà, on n'est pas meilleur que les autres, même si on essaye de se poser avec une loi, avec l'accord, on y reviendra peut-être, sur le climat en 2015. Un commentaire, Sylvie Matelli, sur cette question ?
Bien, je crois qu'on est dans une logique, dans ces cas, ces exemples que vous citez, on est dans une logique où on fait des affaires, quoi qu'il arrive, et on est assez peu regardant. Et la réponse que l'on doit donner ou que doit donner l'entreprise n'est jamais évidente en la matière. On l'a vu autour de la question de répondre aux appels d'offres sur le mur de Monsieur Trump ou de ne pas y répondre. Ça n'a pas été une évidence pour les entreprises. Donc c'est une vraie question. Et pourquoi ça n'est pas une évidence et ça ne sera pas une évidence dans les mois ou les années qui viennent, tout simplement parce que on est encore dans un monde où les règles ne sont pas totalement communes, on est dans une globalisation qui est très libre et assez peu régulée, et on est dans un changement culturel également qui est en cours, donc dans une période de transition, ce qui fait qu'il n'est pas évident pour les entreprises de savoir ce qu'elles ont à faire ou pas, et souvent elles tentent le coup. Alors ce qui les arrête et ce qui les refroidit le plus, c'est probablement l'image de marque et l'image que tout cela va donner, beaucoup plus que les règles d'ailleurs. C'est intéressant comme sujet.
Alors je rebondis sur le mur de Donald Trump, donc ce mur entre les États-Unis et le Mexique, dont le projet, alors le président américain avait d'abord dit que ce seraient les Mexicains qui paieraient. Le débat autour de qui va construire ce mur, Patrick Dumière, est-ce qu'il faut boycotter l'appel d'offres du gouvernement américain démocratiquement élu?
Vous vous souvenez qu'au moment où ce débat est arrivé, le président, le chef de l'État français, François Hollande, avait invité les acteurs économiques à faire œuvre de réflexion. C'est donc effectivement ce qu'il faut faire avant de se précipiter. Il se pose des questions du point de vue des sujets que nous traitons, c'est-à-dire du point de vue de quelle est la responsabilité d'une entreprise si elle répond à cet appel d'offres et comment elle respecte des engagements fondamentaux, voire même des principes de droit international en l'occurrence. Et donc effectivement, ça ne va pas de soi. Du reste, l'entreprise Vinci et puis Lafarge Holcim que vous avez cité a fini par dire, en gros, il y a une incertitude en termes de légitimité internationale, confère les positions du Mexique ou d'autres là-dessus, donc nous ne mettrons pas le doigt dans un contentieux très, très probable. Mais c'est bien aujourd'hui que sur des sujets de ce type, et Dieu sait s'il y en a des impacts qui peuvent être éthiques, qui peuvent être sociaux, qui peuvent être de cette nature sur des questions de migration ou autres, c'est bien que les entreprises enfin se posent des questions qu'elles estiment, et dans les conseils d'administration, ces débats ont lieu maintenant, enfin, dans beaucoup d'entreprises, qu'elles estiment que la loi des affaires n'est pas la seule loi de l'entreprise, qu'il y a des principes supérieurs. Alors, il y a des principes supérieurs de droit qui fait que si elles ne les respectent pas, vous avez cité ce qui s'est passé en Syrie, eh bien, il y a derrière des procédures en justice et qui sont très pénalisantes, très coûteuses. Et puis, il y a aussi le rebond du marché. N'oubliez pas que aujourd'hui, l'aiguillon sur cette demande de responsabilité des acteurs, il vient du monde de l'investissement. Si depuis 10-15 ans, il y a eu un travail qui a été fait dans la réflexion des conseils de la gouvernance des entreprises, c'est parce qu'une petite portion du monde de l'investissement, alors d'abord engagé, aujourd'hui un peu plus large du fait de la prise de conscience des risques qui peuvent exister, risques sur le réchauffement climatique ou risques sur d'autres exigences de droit, eh bien les entreprises se sentent quand même en situation situation de devoir répondre à cela. C'est du reste un aiguillon assez fort, plus fort que celui que le consommateur aujourd'hui exerce. Il est assez faible, l'aiguillon du consommateur, malheureusement. En revanche, celui des investisseurs est fort. Donc, dans cette affaire du mur, si vous voulez, les actionnaires plutôt conseillaient au groupe qui était concerné d'y aller avec extrême prudence, donc d'attendre.
Alors, vous voulez rajouter quelque chose, Sylvie?
Oui, ce qui est intéressant, c'est la manière dont les investisseurs se sont engagés sur ce type de sujet, et qui vient aussi de certaines poursuites. On se souvient la façon dont les banques européennes ont été poursuivies par les autorités et la justice américaine.
Donc,
on est très clairement dans un sujet nouveau. Et finalement, on identifie aujourd'hui des nœuds qui peuvent pousser les entreprises à agir autrement que par le seul biais des affaires. C'est le nœud des investisseurs. C'est le nœud des parties prenantes en général, que ce soit l'État, que ce soit les consommateurs, que ce soit les investisseurs. Et c'est vrai que ce sont les investisseurs qui ont la main actuellement, parce qu'ils ont été très fortement touchés par une responsabilisation dans leur domaine. Peut-être demain, les consommateurs changeront-ils de mentalité, parce que s'ils ne pèsent pas, c'est que quelque part, ils ne sont pas très regardants. Qui va aller acheter un produit dans une entreprise parce qu'elle a refusé de construire le mur de Monsieur Trump? C'est très limité, les boycotts, les incitations restent quand même extrêmement peu efficace, parce qu'extrêmement peu suivi par les consommateurs. Et Dieu sait que les consommateurs français en la matière sont souvent montrés du doigt. Et puis les pouvoirs publics avec la réglementation.
Alors moi je voudrais juste qu'on évoque un tout petit peu plus à fond la question américaine, avec ce qu'imposent les États-Unis à toute entreprise qui va utiliser le dollar pour faire des affaires dans des pays sous sanctions. Alors qui sont les Américains pour faire cela, Patrick Dumière? Et est-ce que ça veut dire aussi que ce rôle de gendarme, ce serait plutôt aux institutions internationales d'endosser cette fonction? Et si elles ne le font pas, c'est qu'il n'y a personne.
Alors clairement, il y a plusieurs débats dans ce débat très très profond qui va nous occuper dans les années à venir, parce qu'il est tout à fait essentiel. Quelle est la légitimité du gendarme du dollar, puisque c'est au nom de la maîtrise de la zone dollar, de pouvoir exercer des sanctions, en fait des négociations? Alors, je crois qu'il faut aussi, là aussi, découper le sujet. D'abord, il n'y a pas de surprise, on le sait, on est informé, et il y a une jurisprudence américaine dans ce domaine qui est intéressante aussi en tant que telle, parce qu'elle consiste à faire respecter quand même des principes assez fondamentaux. C'est il y a des choses que vous ne devez pas faire. Il y a des lois internationales, il y a des embargos, on parle de ceci, que vous devez respecter. Donc, de ce point de vue-là, ça n'est pas de l'arbitraire aussi simple. Le deuxième point, vous avez raison de dire que ce serait mieux que ça se passe dans le cadre de régulation internationale. Et du reste, je crois qu'il faut vraiment y aller dans ce sens. Le CDE s'y essaye. Encore une fois, le vrai drame, je trouve, que c'est que l'OMC est vraiment au point mort, et qu'elle n'exerce pas son rôle de gendarme au travers des barrières non tarifaires, au travers de ces sujets. Et tant que ces sujets ne deviennent pas des éléments discriminants dans le commerce international, eh bien, on n'aura pas de possibilité de s'opposer un peu à cette puissance américaine qui, quand même, dans cette affaire, fait, et c'est souvent leur argument, ce que nous ne faisons pas, ce que nous ne voulons pas faire. Moi, je pense qu'il ne faut pas se lancer dans une critique binaire et un peu manichéiste facile. Il faut regarder qu'il y a, dans le problème que pose le département de justice des États-Unis, quand même deux grands sujets, et il faut les faire remonter dans les bonnes instances internationales.
Sylvie Matelli.
C'est particulièrement intéressant. Là où les États-Unis appliquent l'extraterritorialité, c'est le plus souvent, et vous venez de le rappeler, sur des textes qui résultent de traités qui ont été signés par tous les pays, et en particulier par les pays qui abritent les entreprises ou les maisons-mères des entreprises, qui sont poursuivis par la justice américaine. Donc là encore, il n'y a pas de surprise, et même si l'attitude américaine est scandalisante et scandaleuse, on est quand même dans un cadre où les États-Unis essayent de faire appliquer les règles que tout le monde a signées. La question qui se pose par rapport à ça, alors il y a deux questions, c'est la question de l'OMC. L'OMC a été mise en place pour réduire les règles, je ne suis pas sûre qu'elle soit capable d'en prévoir de nouvelles et d'en penser de nouvelles. Donc ça, c'est une vraie question, quelle est la légitimité de l'OMC dans ce sujet? La réponse devrait être, elle est totale, je ne suis pas sûre que ce soit dans les mœurs et dans la culture de l'OMC. La deuxième question qui se pose, c'est la question européenne. L'Europe est la première puissance économique au monde, plus que les États-Unis est une puissance. Alors, on est à peu près dans des puissances économiques comparables, on ne va pas jouer avec les mots, mais simplement, comment se fait-il que l'Europe ne parvienne pas à se positionner au niveau des États-Unis, et que ce soit des auditeurs européens qui soient aujourd'hui dans les banques à vérifier les comptes et à vérifier que les choses sont bien faites? C'est une vraie question.
Patrick Dumia.
Oui, sur ce débat-là, on a aujourd'hui des tensions très fortes à Bruxelles. Il est au cœur de la problématique du projet européen aujourd'hui. Entre des tensions pro-libérales qui ne veulent pas intégrer ces barrières dites sociales, dites environnementales, parce qu'on a la question environnementale, qui va faire basculer le sujet probablement du reste, et ces règles de comportement. Et puis, des tendances interventionnistes qui souhaiteraient que, dans le cadre de l'accès au marché européen, on mette ces questions-là. Alors, c'est pas aussi simple dans la mesure où il y a eu des accords avec le Mercosur, avec la Corée, qui ont intégré déjà un peu ces éléments. Mais quel combat ce fut de la part des quelques acteurs, soit au Conseil économique européen, soit au Parlement européen, pour faire avancer ceci. Mais il est vrai que c'est un débat en grande partie franco-allemand, ce sujet, et qu'il est en train d'évoluer. Mais si l'Europe montrait l'exemple, prenait le relais à la fois sous la pression américaine et face à l'incapacité de l'Organisation mondiale du commerce de s'en occuper, là, nous ferions une avancée tout à fait importante pour dire à un certain nombre d'entreprises internationales qui ne respectent pas des principes sociaux, qui sont des pollueurs avérés et qui ne rentrent pas dans l'accord, dans l'application de l'accord de Paris notamment, eh bien, celle-là ne serait pas légitime sans s'amender, il ne s'agit pas d'exclure a priori, de rentrer dans le commerce européen. C'est un débat qui est sur la table en ce moment. Il est extrêmement important, il est extrêmement intéressant. Espérons que dans le contexte stratégique nouveau intra-européen, ceci puisse émerger.
Alors, quelques mots sur l'accord sur le climat de 2015. On a vu depuis les États-Unis se retirer de cet accord, une décision que Donald Trump avait déjà annoncé lorsqu'il était seulement candidat à la présidence américaine. On voit des entreprises nord-américaines se désengager de l'intention de Donald Trump et se disent désireuses d'y rester fidèles. Concrètement, ce qu'on voit, c'est que malgré tout, la responsabilité sociale des entreprises, c'est un concept qui me semble assez difficile à mettre en place, qui prendra du temps, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que les nouvelles générations vous semblent plus à même de faire évoluer les mentalités ? Sylvie Matelli.
C'est une vraie question. Je ne sais pas si nous aurons la réponse aujourd'hui. Fondamentalement, et c'est un peu le nœud du problème, et c'est un peu ce qui va remettre en cause tous les propos que nous avons tenus depuis le début de cette émission, nous sommes dans une mondialisation aujourd'hui où aucun acteur global n'a récupéré, ne serait-ce qu'une once de souveraineté des États pour imposer des règles ou pour faire pratiquer différemment leurs affaires aux entreprises. Donc très clairement, les choses ne bougeront véritablement et durablement, et on le voit, à quelques mois d'intervalle, le changement de position des États-Unis sur le sujet, on avancera dans ce domaine que quand les mentalités auront suffisamment évolué pour qu'il y ait des organisations internationales ou des acteurs internationaux, je ne sais pas de quel type, qui seront à même d'imposer des règles et de poursuivre si ces règles ne sont pas respectées et de manière inscrite dans le marbre, qu'on ne puisse pas remettre en cause tous les quatre matins ce qu'on a décidé la veille.
Patrick Dumia.
Moi, je suis plus vraiment optimiste, positif sur cette question de la pression du climat sur les comportements des entreprises aujourd'hui. Il est très probable qu'on aille à 20-30 ans vers une grande partie du business qui devra être zéro émission. Pour plusieurs raisons, je dis ça. D'abord, on a vu, suite à l'accord de Paris, des assemblées générales d'actionnaires chez Shell, chez Exxon. Donc chez les grands pétroliers, Total avait pris l'initiative de le faire d'elle-même, dire voilà comment nous serons dans la trajectoire de degrés à terme. Pourquoi ? Ben parce que nous savons très bien que vos pensions, si demain nous ne faisons pas ces changements-là, eh bien elles ne vaudront pas grand-chose à 20 ou 30 ans. Car le pétrole ne se vendra pas de la même manière dans 20 ou 30 ans. Et donc le pensionné anglais qui attend de vivre de la rente de BP, il a exercé sa pression. Donc ça, c'est un phénomène général qui est extrêmement fort. Les marchés financiers aujourd'hui anticipent, voient le risque carbone avec ses conséquences tout à fait actualisées, extrêmement fortes sur les modèles économiques. Et donc, les entreprises sont obligées aujourd'hui d'opérer les changements qui s'imposent dans ce domaine. Et vraiment, il n'y en a pas une qui pourra s'exonérer de sa responsabilité, d'autant que aujourd'hui, les instances internationales, alors il y a eu le rassemblement au niveau des banques centrales, avec cette fameuse proposition de Bloomberg, certes que les Américains n'ont pas voulu inscrire au G20, mais enfin, la chose est faite, demandant à tous les gestionnaires d'actifs de dire exactement comment ils réduisaient leur empreinte carbone. On est rentré aujourd'hui dans un vrai risque systémique, compris, partagé, au niveau de la finance, et je pense qu'il il est sérieusement pris en compte sur ce segment-là. Maintenant, il va mettre du temps à s'appliquer.
Sylvie Mathilly ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais encore une fois, ça ne contredit pas du tout ce qu'on a pu dire précédemment. C'est qu'aujourd'hui, sur le changement climatique, on est face à un risque industriel pour les entreprises, dans la poursuite de leur activité même, dans leur survie. Donc elles agissent parce qu'elles ont pris conscience de cela. Elles ne font jamais que du business dans cette affaire-là.
Alors, oui, je fais avec du business, mais vous savez, depuis que le monde est monde, l'économie, elle cherche un petit peu le compromis entre la satisfaction des besoins, l'intérêt matériel qui est le nôtre, et puis l'utilisation des ressources et le maintien de ces ressources. Alors, on est entre ces deux tendances fondamentales à essayer de faire fonctionner les choses. Et ce qu'on va appeler la durabilité, c'est l'apparition d'un modèle qui répond à ce besoin d'équilibre, hein, entre pression des ressources et satisfaction des besoins, ce qu'on appelle un peu une tendance au découplage, et ça, elle avance aujourd'hui dans les modèles économiques, elle avance dans la compréhension, l'économie circulaire progresse un peu, la réduction des déchets, on la mesure de mieux en mieux. Alors, la question n'est pas tellement de savoir si ça se fait, ça se fait pas, la question c'est celle de la vitesse. Est-ce que on va le faire assez vite pour que, par rapport à une démographie quand même qui est extrêmement forte, à des continents comme le continent africain sous une très grande pression de la société, est-ce que ça va aller vraiment à un rythme tel que l'on corrige les impacts ou pas? Voilà. Et là, on a une course entre une puissance dans les entreprises croissantes, une demande des sociétés de traiter ces questions-là. Moi, c'est cette question-là qui m'intéresse. Je crois qu'on a pris conscience des choses. Ces enjeux sont sur la table. Il y a des initiatives positives, il y a des pratiques insuffisantes. Mais est-ce que les trajectoires sont suffisamment rapides, suffisamment collaboratives pour qu'on atteigne des résultats ou est-ce qu'on se paye de mots?
Ce qui va être très intéressant en deux mots, c'est de voir le rôle et le poids que peuvent avoir les entreprises pour faire avancer beaucoup plus vite les politiques. Parce que fondamentalement, je pense que la prise de conscience du civil, des entreprises et des citoyens est beaucoup plus forte que celle des politiques.
Pour conclure, à quoi ressemblera le capitalisme de demain?
Il y a un livre que je conseille à tout le monde de lire, qui est celui de Michel Cantu, ancien patron du FMI, et qui s'appelle « Vers le monde de 2050, ce que l'avenir nous réserve », où il reprend un peu toutes les réformes répétées, demandées, sur l'éthique de la finance, sur le commerce mondial et autres, depuis des décennies et des décennies, parce que le diagnostic, on le connaît, ce qu'il faut faire, on le sait assez bien dans toutes les instances, et où finalement, il appelle à un croisement entre une sagesse et une prise de responsabilité, au sens philosophique, au sens vraiment de l'engagement humain des acteurs, et puis des règles du jeu plus collectives qui tirent les leçons de la mondialisation. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui vraiment font bouger les lignes, il faut les encourager. Il y en a qui visiblement sont totalement indifférents, et comme vous le disiez tout à l'heure, madame, c'est vraiment à travers l'aiguillon de la société qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui quand même ça change significativement. Le réflexe vital de la société, il apparaît, notamment sur la question environnementale. Le réflexe politique sur la question des inégalités, il est très fort, donc il y a un sens de l'histoire, je crois, qui est quand même une volonté d'organiser des sociétés meilleures, qui font penser que les entreprises vont abandonner le seul objectif de l'optimisation de leurs ressources pour le traduire et l'accomplir avec un respect de principes supérieurs, ces fameux biens communs que vous rappeliez, et qui font que elles vont organiser leur stratégie en faisant en sorte, c'est une phrase importante issue du sommet de Johannesburg, mais il faut toujours l'avoir en tête, c'est « il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd ».
L'entreprise, au sujet de la construction du monde, Sylvie Mathilly, on rêve un peu ?
Non, pas forcément. Fondamentalement, regardez ce qu'était le monde il y a 1000 ans, il y a 500 ans, il y a 200 ans. Je crois qu'il faut pas être totalement pessimiste et que les choses avancent. Les économistes adorent les équilibres pour se rendre compte qu'on n'arrive jamais à l'équilibre, qu'on fait toujours un peu trop dans un sens ou dans l'autre et que par cet effet de balancier, on tourne autour de l'équilibre en s'en rapprochant progressivement. On peut peut-être conclure là-dessus.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Sylvie Mathilly, directrice adjointe de l'IRIS, économiste spécialisée en économie internationale et de la défense, et Patrick Dumière, animateur de l'Académie Durable Internationale, enseignant à Centrale Supélec, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, La nature politique de l'entrepreneur, paru aux éditions Michel de Maulle. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À très bientôt.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr.